Bonjour, The Right Advice Podcast. Aujourd'hui, notre invité est Monsieur Jean-Pierre Latterre, fondateur et CEO de Ezo Biotech. Bonjour, Monsieur Latterre.
Bonjour, bonjour.
Ok, alors Monsieur Latterre, on va aller directement dans le vif du sujet. Vous avez démarré Ezo Biotech en 2021 avec 250 000 euros de votre famille et vos amis et aucun venture capital à bord. Et en moins de trois ans, vous avez signé une des plus grosses acquisitions et l'un des plus gros exits biotech européens avec la vente d'Ezo Biotech à AstraZeneca pour un montant de plus d'un milliard. Comment se vit une telle opération de l'intérieur et qu'est-ce qui a, selon vous, fait la différence? L'innovation technologique, votre résilience personnelle ou un alignement rare des planètes ou un mélange des trois?
Très, très bonne question. En fait, quand on voit ce type d'opération, on le vit à l'intérieur, c'est intense, c'est exigeant, c'est super stressant, mais c'est en même temps profondément humain. Une chose est sûre, hein. Au départ pour nous, l'objectif n'était pas de vendre Ezo Biotech. L'objectif était de s'assurer qu'on démocratise des traitements innovants, des thérapies cellulaires, les rendre accessibles à un maximum de personnes aux quatre coins du monde. Donc ça a été notre boussole. Et on a fait trois choses très 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 vite et très simplement. Donc on avait un plan crédible, on voulait avoir un plan, on a une équipe très résiliente et capable d'exécuter. Et avec ça, on a développé une capacité d'exécution avec discipline et détermination. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je crois que c'est une combinaison de facteurs. L'innovation, c'est sûr, mais aussi une exécution sans compromis, une exécution pointilleuse, la capacité de générer des données scientifiques, mais surtout le courage de prendre des risques. Nous sommes une petite entreprise européenne, mais on a pris des risques. Et voilà, ce plan ambitieux nous a permis d'arriver à où on en est. Mais voilà, on est très, très content de ça.
En tout cas, félicitations encore une fois. Question petit B. À la suite de votre levée de fonds privée de 250K, vous avez ensuite obtenu 1,5 million non dilutifs de la région Wallonne, puis levé 6 millions d'euros en pré-série A pour un total de 22 millions de capital mobilisé avant l'exit. Vous avez levé moins de 22 millions, là où d'autres brûlaient 200 à 300 millions d'euros.
C'est vrai.
Et ce capital contraint-il paradoxalement à forger une culture de la clarté, de la discipline stratégique, voire d'humilité dans l'exécution? Et est-ce que les biotech, de manière générale, lèvent parfois trop d'argent trop tôt?
Très bien. Je pense que de manière générale, beaucoup de biotech ont levé trop d'argent trop tôt. Ils se sont retrouvés à brûler du cash. Et ils ont levé de l'argent sans avoir un plan clair et une feuille de route stratégique claire. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, où il y a beaucoup de biotech qui souffrent, cette correction, elle est normale et je pense qu'elle est nécessaire. Maintenant, pour nous, au niveau des biotech, le mot-clé ou les mots-clés, c'était capital efficiency.
Okay.
Donc, on a travaillé vraiment. En fait, on a levé un peu plus près de 8 millions de la région Wallonne et 14 millions d'investisseurs. Mais dans mon esprit, il fallait qu'on utilise absolument cet argent de manière très, très efficace. Et donc, les priorités, c'était comment est-ce qu'on investit dans l'équipe pour s'assurer qu'on avait une équipe innovatrice, comment est-ce qu'on crée des données scientifiques, les bonnes données scientifiques, et comment est-ce qu'on arrive très vite à la clinique. Okay. Et donc, tout ça, en faisant fi de ce que les grosses pointures faisaient avec leurs 200, 300 millions et de grandes équipes de CEO, CFO, si machin, nous, c'était vraiment une forme de frugalité, c'est vrai, mais c'était une frugalité très ciblée. On savait ce qu'on voulait. Donc ça nous a permis d'arriver où on en est et très content d'être où on en est.
Ok, non, très bien. Très bien. Autre chose, derrière cet exit, il y a des années de recherche et développement, de la stratégie clinique, des levées de fonds et de structuration. Votre virage vers la thérapie cellulaire in vivo part d'un constat concret en usine. Des centaines de lots autologues, une limite industrielle. Vous avez transformé ce goulot d'étranglement en innovation de rupture. Et est-ce que ça, au fond, ce n'est pas l'ADN des biotech, faire simple ce que tout le monde complique?
C'est très, très bien résumé. C'est vraiment ça la vision. Pour nous, ce qu'on disait et ce qu'on dit toujours aujourd'hui, c'est qu'on transforme un patient en usine.
Okay.
C'est une image, mais c'est très simple. Au lieu de prendre le sang d'un patient qu'on envoie dans une usine, qu'on travaille pendant des semaines et des semaines dessus, nous, on se dit, ben non, en quelques minutes, un patient peut créer lui-même sa propre thérapie cellulaire. Okay. Et donc, c'est cette simplification qui a été la vision et qui nous a permis au départ... cette idée n'était pas... Il y a peu de gens qui y croyaient. Okay. J'ai vu beaucoup d'investisseurs qui me disaient « Mais non, ça ne va jamais marcher. Mm-hmm. » Mais en parallèle, ce que moi j'ai fait, j'ai consulté, je pense que j'ai parlé avec 8 ou 9 professeurs d'université et la question que je leur posais, c'était en anglais, c'est « Please, kill this idea. »
Bien sûr.
Tue cette idée. Okay. J'ai dit, qu'est-ce que vous voyez en tant qu'expert scientifique pour tuer cette idée? Et au bout du compte, tout le monde me disait, mais c'est une idée très simple et qui marche.
Alors pourquoi les autres n'y croyaient pas alors?
Parce que ça avait l'air fou. Okay. Parce qu'on part du concept que, ben non, la voie classique, c'est d'envoyer ça à l'usine, etc. Et en fait, il y a beaucoup de risques, quelque part, scientifiques dans le corps. Hein. Mmh. Il faut s'assurer qu'on trouve les bonnes cellules, qu'on cible les bonnes cellules, et pas toutes les cellules, qu'il n'y ait pas d'effet secondaire. Et c'était ça la difficulté. Okay. Nous, on avait un plan, on a toujours eu un plan qui montrait que, ben, pour nous, c'était faisable, cette idée était faisable. Donc, faire très simple, ça a été notre modus operandi.
Ok, oh, fantastique, fantastique. Une autre chose, moi je travaille dans le secteur minier et beaucoup l'ignorent, mais les technologies de santé avancées, telles que les dispositifs connectés, les puces au bio et les capteurs moléculaires, ouais, reposent sur des terres rares et métaux stratégiques.
Ouais.
Et la santé du futur, entre dispositifs connectés, plateformes de diagnostic et bio-interface, dépendent de métaux rares extraits en Asie, mais particulièrement en Afrique et dans un pays comme le Congo. Avez-vous déjà été confronté dans votre chaîne d'approvisionnement ou vos partenariats, à cette dépendance critique aux minerais stratégiques?
Alors nous, dans notre cas, directement non. Directement non, parce qu'on est un peu à un carrefour légèrement différent. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se passent dans le domaine des dispositifs médicaux où l'intelligence artificielle et tout ce qui est électronique est en train d'envahir ce monde-là et les métaux qui sont produits au Congo, le cobalt, le lithium, sont critiques dans ça. Maintenant, nous, on a travaillé, un de nos sous-traitants principaux en Europe est un sous-traitant qui est en train d'investir dans tout ce qui est intelligence artificielle. Et donc, ce sous-traitant nous a permis de produire notre premier batch dans des conditions qui étaient okay, mais ils sont en train d'investir dans l'intelligence artificielle pour améliorer les processus de culture cellulaire, la récolte des cellules. Il y a moyen aujourd'hui de mieux prédire ça. Donc, quelque part, la biotech est en train d'aller vers un monde où l'intelligence artificielle et l'électronique vont de plus en plus s'imposer. Okay. Et donc, tout ce qui est produit au Congo, tous ces métaux rares vont avoir un rôle critique. Donc, un pays comme le Congo va se retrouver au carrefour de plusieurs industries. Et bien ça, c'est très, très, très bien. Et nous devons avoir la capacité d'exploiter cela.
Totalement, totalement. Et pensez-vous que dans un futur proche, les biotech vont s'intéresser à la sécurisation de chaînes d'approvisionnement en cuivre, lithium, cobalt ou tantale, comme les batteries,
oui, par exemple? Oui, oui. Je crois que ça, on va y aller. Et je crois que ce qu'on est en train de voir dans l'industrie automobile va se reproduire aussi dans la biotech.
C'est sûr.
Aujourd'hui, il y a toutes ces questions géopolitiques, Chine, États-Unis, qui sont drivées beaucoup par tout ce qui était automobile, électronique, etc. Mais déjà, même en biotech, on commence à sentir cela. Hein.
D'accord.
Je crois qu'il y a une forme de protectionnisme qui est en train de s'établir au niveau de la biotechnologie. Pourquoi? Parce que la Chine monte beaucoup. Mm-hmm. Nous, on a maintenant une expérience chinoise qui nous a montré que la Chine est un acteur incontournable. Pardon. Et donc, la biotechnologie va se retrouver au même niveau. Donc, je pense qu'il y a vraiment un positionnement qu'il faudrait comprendre et exploiter cette situation.
D'accord. Dernière question à ce sujet. Si on vous disait que votre prochaine start-up biotech devra sécuriser un accès direct à certaines ressources minières pour rester compétitive, ça serait réaliste ou encore de la science-fiction, selon vous?
Non, ce ne sera pas du tout. Ce sera pas de la science-fiction. À ce moment-là, je me réjouirais d'aller au Congo et de rencontrer les acteurs clés pour sécuriser. Non, je pense qu'on est en train d'aller vers quelque chose comme ça.
D'accord.
Et il faudra, parce que la biotechnologie, elle est là. Elle ne va pas, mourir. On a besoin de continuer à développer, à soigner les gens, etc. Et on sait que l'intelligence artificielle et tout ça vont nous permettre, l'électronique, vont nous permettre d'améliorer ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On le sait. Donc, il y a beaucoup de biotech qui sont en train d'investir dans ce domaine-là. Donc, s'il y a maintenant une question de sécurisation des ressources, des minéraux rares qui sont dans différentes parties du monde, ça va devenir un enjeu stratégique.
D'accord. Ouais, très intéressant. Pour cette question, vous avez construit un acteur mondial depuis la Belgique dans un domaine ultra concurrentiel. Quelle part de vision, de résilience, de foi et peut-être d'intuition personnelle avez-vous mobilisé pour franchir cette étape extraordinaire. Il faut utiliser les mots ouais. qui s'imposent.
Ouais. Écoute, on ne peut pas se lancer dans un projet d'une telle envergure, dans un secteur aussi exigeant, pardon, sans de la résilience. C'est impossible. La recherche, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Ça, on le sait. J'ai un ancien boss qui me disait « The road is the bumps ». Donc, la route, ce sont les entraves, ce sont les problèmes. Donc, il y a beaucoup de moments d'incertitude, de doute, parfois d'isolement. On se pose beaucoup de questions. Mais pour tenir, il faut une vision claire et une force intérieure. Dans mon cas, cette force vient effectivement de ma foi. La foi est un élément clé dans ma vie. Je suis un chrétien protestant. Et donc, cette dimension spirituelle a été au cœur de ma trajectoire. Donc, elle me donne un cadre, elle me donne des principes. C'est une boussole pour moi dans ce que je fais. Donc, je crois que nous sommes appelés à avoir un impact positif sur le monde, sur l'environnement, sur les autres. Et dans mon cas précis, c'est important. Donc, par rapport à l'intuition, ça peut sembler un peu fou, mais moi, je définis l'intuition comme un peu la capacité de lire des données qui sont très peu lisibles ou faibles et d'essayer de projeter. Je vois des éléments autour de moi qui sont très, très early, qui sont très, très simples, mais je me dis, est-ce que je peux me projeter au-delà. Donc, je vois quelque part l'intuition comme une lecture de données, quoi, qui sont faibles. Donc, oui, il y a une forme d'intuition, mais pour moi, c'est une intuition qui va être basée sur quelques éléments que je vois autour de moi. Et donc, moi, je travaille aussi à l'intuition, mais ce n'est pas juste un feeling, quoi.
Bien sûr.
Donc, c'est vraiment une analyse de petites choses, regarder autour de soi, avoir une vision de 360 degrés et dire, voilà, il y a toute une série de petites choses, de signaux qui m'indiquent ça. Et donc, je pense que je dois aller dans une direction précise. Donc, c'est une intuition presque quelque peu un peu scientifique. Maintenant, par rapport à mon travail, il y a clairement, moi, j'allie la foi et la science. J'allie la foi. La foi, c'est cette capacité de me donner une boussole, un sens. Et la science, ce sont les outils qui me permettent d'arriver à exécuter une vision que j'ai, une direction où je veux aller. Donc, ma foi fait vraiment partie intégrante de mon travail et de l'exécution que je donne par rapport à une vision que j'ai.
D'accord. Et c'est intéressant parce que vous parlez de foi, et elle peut être religieuse, mais aussi non religieuse. Quand on regarde, par exemple, un individu qui a 45, 50 ans et qui veut monter l'Himalaya, il a une foi extraordinaire pour aller jusque-là, en fait. Et ça, c'est un aspect des fois que, même bien souvent, qu'on ne met pas en compte dans le succès d'un individu ou de plusieurs individus.
Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Maintenant, moi, je crois que la foi chrétienne que moi j'ai, c'est une foi qui doit pousser à l'action.
Bien sûr.
C'est une foi en action. Vous prenez l'exemple de monter l'Himalaya. Les Oviotech, c'était un peu ça, quoi.
Bien sûr.
Donc, c'est un projet qui était complètement fou, insurmontable. C'était, comme je disais, il y a un nombre de personnes qui n'y croyaient pas beaucoup. Certains y croyaient un tout petit peu, des proches.
Et encore,
comme vous dites. Donc, c'est monter, c'était gravir toute une série de choses. Maintenant, la partie spirituelle, c'est de dire, en fait, j'y crois. Et donc, j'ai besoin de pousser, j'ai besoin de travailler. De travailler, j'insiste sur ça, parce que je crois que beaucoup de gens se cachent derrière. Parfois, une fois, on ne fait rien, on est attentiste.
La main va descendre du ciel.
Exactement, on vit une forme de fatalisme. Ce n'est pas vrai, quoi. Je crois que pour moi, la foi doit pousser à l'action.
Tout à fait.
Une action concrète avec des individus, avec un plan, avec un projet, avec une vision, avec une équipe, etc. Quoi.
Après, on va y revenir un peu plus tard, mais c'est vrai que je pense que vous aurez eu beaucoup plus d'encouragement si vous étiez dans un environnement anglo-saxon.
C'est sûr.
Ou dans un environnement francophone qui, des fois, peut être un peu, ou même beaucoup, décourageant. On va y revenir un peu plus tard.
Oui.
Donc, vous avez pitché, signé et clos cette opération entre Mont-Saint-Gilbert, où nous sommes ici, San Francisco, et Cambridge, en Angleterre, là où est le siège d'AstraZeneca.
Oui.
Que dit votre parcours sur le potentiel global d'entrepreneurs européens dans la biotech.
Ouais.
Et vous êtes belge d'origine congolaise, mais vous opérez dans une industrie globalisée.
Ouais.
Croyez-vous que le positionnement de l'Europe face à la domination américaine et la montée en puissance de l'Asie dans la deep tech est quelque chose qui va changer ou qui va rester tel quel?
Le parcours entre ici, Mont-Saint-Guibert, San Francisco, Cambridge, montre que l'innovation de rupture dans laquelle nous sommes peut naître dans un petit village européen ou congolais. Hein. Il peut naître quelque part, quoi, et résonner sur les marchés mondiaux. Donc, je crois que l'innovation peut arriver de n'importe où, quoi. Il faut partir de ce principe-là. Maintenant, dans le cas de l'Europe, C'est vrai qu'il y a une certaine lenteur réglementaire, il y a parfois une fragmentation, etc. Mais je crois qu'il y a moyen. L'Europe a établi un système d'éducation et de fonctionnement qui est vraiment solide. Donc, dans mon cas précis, étant d'origine congolaise, j'ai été formé au Congo, je suis arrivé en Europe, j'ai appris à naviguer entre différentes cultures. Et j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai fait un post-doc aux États-Unis. Et donc, je me vois comme un melting pot de toute une série de choses. Et je crois que ça nous a énormément aidé. Ça m'a aidé à m'établir en Europe. Ça m'a aidé à prendre ce qui est disponible en Europe et aller vers les États-Unis. Et dans notre cas, on a travaillé aussi avec la Chine. On a fait une étude clinique en Chine. Je crois que ce background congolais, pour moi, me permet d'interagir avec différentes cultures, d'être ouvert. Et donc, je crois dans un monde qui n'est pas monopolaire ni bipolaire, mais multipolaire. Et donc ici, l'idée, c'est de voir dans quelle mesure est-ce qu'on continue à bâtir sur ce type de modèle. Je ne crois pas que l'intention, c'est qu'un pôle gagne sur un autre. Il y a moyen d'allier les différents pôles et de travailler avec les différents pôles et de prendre le meilleur de partout. Et je crois que c'est ça l'intelligence dont on a besoin en Europe ou même en Afrique ou au Congo. Comprendre qu'il y a des enjeux qui sont multipolaires, mais qu'on est capable de jouer un rôle. Donc, dans notre cas, dans le cas de la biotech, je suis convaincu que le monde ne sera pas monopolaire. Il y aura plusieurs pôles. La Chine est en train de s'élever. Les États-Unis sont là, seront encore là. L'Asie monte. Je crois que l'Europe, il y a encore moyen de réorganiser, mais je ne sous-estimerai pas ce qui pourrait sortir d'Afrique. Je crois qu'il y a des choses intéressantes qui se passent en Afrique du Sud. Bon, il y a des défis au Kenya. Il y a des trucs qui sont pas mal du tout, quoi. Je crois qu'il y a même moyen, dans plusieurs années avec beaucoup de vision, qu'au Congo aussi, il se passe quelque chose, quoi.
Il y a énormément de talents dans ce pays.
Il y a énormément de talents.
Pas toujours encadré comme il se faudrait, mais il y a vraiment des talents de classe mondiale.
Totalement.
De classe mondiale qui ont un envie avec ce qui peut se faire ailleurs, et ça dans tous les domaines.
Je suis totalement d'accord.
Et je vous pose une dernière question. Monsieur Laterre, ce que vous avez accompli est historique. Vous avez fait sauter une barrière psychologique monumentale dans l'esprit de beaucoup, particulièrement de beaucoup de Congolais, qui avaient une image un petit peu, on va dire, distorted du Congolais, que tu ne peux faire que certaines choses jusqu'à un certain niveau. Le reste, c'est pas pour toi, en fait. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'un Congolais d'origine clôture une transaction de cette ampleur, toute industrie confondue, pour sa propre entreprise, que ce soit par fusion acquisition, comme c'est le cas ici, IPO, introduction en bourse, ou LBO, acquisition via dette, ou SPAC encore, levée de capitaux via introduction en bourse, ou encore OPA, offre publique d'achat. Cette transaction est à l'intersection de la biotech mondiale, de Wall Street, de la nouvelle élite africaine. Quel est, selon vous, le conseil que vous donneriez à tous les talents africains et au-delà, tout aussi capables, mais qui sont souvent bloqués par une mentalité limitante, souvent décourageante, voire à bien des égards moqueuse, quand on a trop d'ambition et qu'on est quelqu'un qui est issu de, voilà, qui est d'origine congolaise. Et c'est très répandu dans le monde francophone, et particulièrement au Congo et dans la diaspora. Qu'est-ce que vous auriez à dire?
Bon, mon premier commentaire, c'est que Isobiotech se retrouve dans une situation qui est inédite et privilégiée, comme discuté. Et personnellement, j'en suis très fier, je suis reconnaissant et rempli de gratitude. Le but de notre recherche n'était pas de vendre l'entreprise, c'était vraiment de développer des traitements qui étaient innovants et qui étaient accessibles à un maximum de patients. Alors moi, je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo, j'ai étudié au Congo, ma formation de base et mes apprentissages de base viennent du Congo. Mon ADN est africain, donc c'est mon pays, le Congo c'est mon pays, j'y retourne souvent. Alors, me retrouver dans la situation actuelle n'était pas l'objectif de ma vie ni de mon travail. Mais c'est vrai que cette transaction représente quelque chose de symbolique. J'en suis conscient et j'en prends conscience en discutant avec toute une série de personnes. Pas pour moi, mais pour aussi toute une génération qui rêve sans toujours avoir des repères et des exemples concrets. Il y a quelqu'un qui me parlait du fait que peut-être que je devrais faire une fête et inviter les Congolais. Je dis mais non, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas nécessaire. Mais il m'expliquait qu'on a besoin, pour nous, Congolais, d'avoir d'autres modèles, d'autres types de modèles. Et dans ce cadre-là,
en politique, en sport, en musique,
voilà. Je crois que le Congo est un pays extrêmement riche, pas seulement par rapport aux ressources minières, mais humainement, comme vous l'avez dit, c'est un pays extrêmement riche et je suis fier d'être congolais. Donc, mon premier message, c'est de dire que ce genre de réussite n'est pas réservé à une élite qui est invisible ou qui est inaccessible. C'est pas réservé à certaines personnes. C'est pas une question de passeport, c'est pas une question d'accent ou de réseau familial. C'est pas vrai. C'est pas ça qui m'a aidé.
C'est ce qu'on nous a fait croire.
Donc c'est pas non plus une question d'argent. Hein. C'est pas une réussite comme j'ai expliqué. On a galéré quoi. Et maintenant je discute avec beaucoup de personnes. Je dis on ne commence pas un projet parce qu'on a de l'argent.
Tout à fait.
L'argent suit. L'argent suit une vision. L'argent suit une équipe. L'argent suit un rêve. Ça vient après, il ne faut pas commencer par ça. Donc c'est d'abord cette capacité à avoir une vision, à avoir de la persévérance et surtout du courage mental. Okay. Et je crois que parfois nous, en tant qu'Africains, ce courage mental-là, on ne l'a pas. Cette résilience, parfois on ne l'a pas. Et je crois qu'on doit s'encourager. Il faut arriver à se projeter à des niveaux où notre environnement ne nous a pas conduits. Et imaginer que c'est possible.
Bien sûr.
C'est possible d'arriver là, c'est possible de faire ceci, c'est possible.
Avec un travail derrière, bien évidemment.
Bien sûr, avec beaucoup de travail derrière, avec beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup d'échecs. Donc, beaucoup de talents africains sont brillants, mais on a une double charge, c'est-à-dire qu'on se bat contre des limites extérieures, d'autres régions, etc. Mais je pense que le plus gros défi, c'est nos propres limites intérieures.
Totalement.
Nos propres limites, ce qu'on est capable de faire, c'est, comme vous avez souligné, des stéréotypes. Oui, mais nous, on n'a jamais fait ça. Personne ici n'a jamais fait ça. Et ça nous arrête, et parfois notre environnement le plus proche, c'est celui qui ne croit pas en nous. Quand tes parents, tes amis ne croient pas en toi, c'est très, très compliqué.
Bien sûr.
Et donc, je crois que ça, c'est la plus grande bataille. Quand on arrive à briser cela, se dire que ce n'est pas pour nous, c'est trop gros, tu rêves, ça ne va jamais se faire, je crois qu'on a déjà tué ça.
Totalement.
Et ça, c'est au départ. Si on arrive à faire ça, c'est déjà une grande réussite. Donc, je dirais à un jeune Congolais ou à tout Africain de la diaspora, ne vous excusez jamais d'avoir de grandes ambitions.
Bien sûr.
Ne vous excusez jamais. Il faut vouloir avoir de l'impact. Ne réduisez pas vos rêves ou ne les rendez pas inaccessibles. Allez, il faut pousser. Je crois qu'il faut vraiment pousser. Mais c'est important maintenant de s'entourer de personnes qui croient en nous.
Bien sûr.
De s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut. Je crois qu'il y en a. Et de rêver. C'est extrêmement important.
Je vais vous poser une dernière question.
Oui.
Elle est plus d'ordre philosophique cette fois-ci.
Oui.
Je pense que c'est Sénèque qui disait que le bonheur, c'est toujours de désirer ce qu'on a. je paraphrase, mais
ouais.
Quelque chose comme ça.
Ouais.
Quand on a effectué une grosse transaction comme ça,
ouais,
et qu'on a énormément d'argent qui tombe et qui va encore tomber éventuellement, comment est-ce qu'on fait pour pas devenir fou, parce qu'on peut le devenir, même si je pense que ce n'est pas votre cas, comment est-ce qu'on fait pour toujours désirer les choses qu'on a toujours voulu avoir,
oui,
mais toujours qu'elles soient attractives, dans, oui, le sens où la beauté de ces choses-là, c'est aussi leur rareté,
oui,
et leur exclusivité.
Oui.
Mais une fois qu'on y a accès en un claquement de doigts,
oui,
comment est-ce qu'on fait pour toujours les désirer, pour toujours les apprécier.
Alors, dans notre cadre précis, hein, c'est vrai que c'est une transaction qui est très intéressante. Mmh. Et en toute transparence, je pense que les investisseurs sont très contents.
Bien sûr.
Ils sont beaucoup plus contents que beaucoup de personnes. Je crois qu'il y a toute une série d'investisseurs qui avaient cru en nous et qui aujourd'hui ont un retour sur investissement qui est très, très important. Mmh. Et c'est bien pour eux.
Bien,
je suis très content pour eux, mmh, parce qu'ils ont cru à ce projet. Maintenant, dans notre cas, dans mon cas précis, mmh, Cette transaction, c'est pas la fin du monde, quoi. Cette transaction, c'est entrer dans une autre phase.
Okay.
C'est entrer dans une autre phase où on est capable, je pense, d'avoir un autre type d'impact.
Mm-hmm.
On est capable de supporter d'autres types de projets.
Mm-hmm.
Et on est capable d'encourager d'autres initiatives.
Totalement.
Donc, je vois ça comme...
Exactement,
comme un step.
Pas comme une fin en soi.
Absolument pas. C'est vraiment le début d'autre chose. Et c'est d'autres choses, pas seulement pour moi, ma famille, mais d'autres choses pour beaucoup de projets. Quoi. D'autres choses pour, comme on a discuté tout à l'heure, je suis heureux de pouvoir dire que Aujourd'hui, on peut montrer à des Congolais qu'on est capable d'arriver à des sommets, à des endroits où on ne nous attend pas. On ne nous attend pas, mais on est capable. Je suis heureux de cela. Et c'est pas du tout une question financière. Le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, pour moi, c'est vraiment, comme je le disais un peu plus tôt, d'être dans cette position où un rêve est devenu une réalité. Mais c'est pas la fin du monde. C'est, on entre dans une autre phase de notre vie, où, voilà, j'ai à peine 50 ans, je suis jeune, donc il me reste encore, j'espère, 30 ans où je peux avoir un impact sur d'autres personnes autour de moi. Et pour moi, le bonheur, c'est donner. Donner, c'est du bonheur. Donner du temps, donner du conseil, donner de l'amour, donner. Donc, j'entre dans une autre phase où je crois qu'on va continuer à donner. Et ça, c'est très, très allié, entre guillemets, avec ma foi. Mais donner de manière pratique, quoi. Donc, je suis heureux d'être là. Je suis très fatigué. Je suis super... je suis très sollicité, c'est vrai. Mais je vais essayer de donner un maximum de ce que j'ai. Et pour moi, c'est ça. C'est une grande partie du bonheur.
Tout à fait. Mais on vit dans une société où l'argent... en tout cas, ce qui est véhiculé, l'argent est roi. Dans une communauté congolaise où on est dans une logique... Ouais. Souvent, pas toujours, ouais. Mais de prendre ouais. Plus que de donner. Ouais. Et donc, c'est vrai que ça détonne avec un profil comme vous, qui est un Congolais clean money, ouais. Comme je les appelle. Et donc voilà, c'était vraiment dans ce cadre-là que je vois les choses. C'est toujours intéressant de poser des questions à titre personnel sur l'argent, parce que c'est pas souvent qu'on a cette occasion. Il y a beaucoup de tabous, d'opacité, oui. Et je trouve que dans le milieu anglo-saxon, ils sont beaucoup plus libérés oui. Par rapport à cet aspect-là.
Oui.
Et donc voilà, c'est la différence entre
complètement. Je pense que vraiment on doit comprendre, et comme vous le dites, l'argent c'est juste un outil. C'est juste un outil. C'est pas une fin en soi. Quoi. L'argent c'est un outil qui permet d'accomplir une série de choses. Et je crois que l'important pour chacun d'entre nous c'est à the end of the day, au bout de la route, du chemin, qu'est-ce qu'on a accompli sur la Terre ?
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on a fait, quoi ?
Legacy.
Et exactement. Qu'est-ce qu'on a fait ? Et le legacy, ce n'est pas spécialement des bâtiments, etc. Je crois que le legacy, c'est les gens. Qu'est-ce qu'on a investi dans les gens ? Comment est-ce qu'on a permis aux gens de devenir excellents, de se développer, etc. Après, nous, on doit rendre les gens meilleurs. Et je crois que l'argent, c'est aussi un des outils pour faire ça, quoi.
D'accord.
Mais c'est pas là du tout la finalité. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment dans cette optique-là. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre les autres meilleurs, quoi?
Et juste pour revenir sur la question que j'avais posée, et ça sera la fin. Donc, comment est-ce qu'on fait pour toujours désirer les choses qu'on désirait avant? Ouais. Qu'aujourd'hui, on peut avoir.
Ouais.
En un claquement de doigts. Comment est-ce qu'on fait? À quelle fréquence il faut le faire? Est-ce qu'il faut tout se permettre?
Ouais.
Est-ce qu'il faut tout faire tout le temps?
Ouais.
Oui, mais si on fait tout le temps, on sera plus. Il ne restera plus rien à faire.
Ouais.
Et donc, comment est-ce qu'on trouve une balance, sachant qu'un individu n'est pas un autre?
Ouais, c'est ça.
Alors,
moi, je parle de moi. Et si on s'arrête juste sur l'argent, l'argent pour moi, ça n'a jamais été un élément clé de ma vie. J'ai jamais couru après l'argent. J'ai jamais couru après l'argent. C'est paradoxal peut-être, mais j'ai jamais couru après l'argent. Et donc, je ne courrai pas après l'argent. Donc, comme j'expliquais, Isobiotech, c'est un projet pour démocratiser un traitement, des traitements pour des personnes. Et mon rêve, c'est vraiment que d'ici les 10 prochaines années, des traitements basés sur notre technologie soient servis à des Africains.
D'accord.
Parce que souvent, on n'a pas ça. Et donc, je crois que le bonheur, ou ce qu'on désire, et c'est vrai, c'est important de définir ce qu'on désire, moi, ce que je désire, c'est avoir un impact.
D'accord.
Et donc, c'est ce après quoi je suis en train de courir. Mm-hmm. Et donc, l'argent qui vient, qui soit... L'argent, non, on n'en a plus, ça part, ça vient, c'est comme ça. C'est rien du tout, quoi. Mm-hmm. Dans mon cas, c'est pas ça qui me conduit, qui me drive. C'est pas du tout l'argent, quoi. Mais c'est vraiment l'impact que l'on peut avoir, quoi.
D'accord. Fantastique. Mais je vais vous laisser, un dernier mot que vous avez...
Ben, je discutais avec vous et se retrouver ici à Mont-Saint-Guibert entre deux personnes d'origine congolaise, c'est génial et je pense que ça montre que le Congo a sa place à l'échelle mondiale. Je crois qu'on doit continuer, et je vous mets dedans, à briser les barrières. On doit continuer à en vouloir, on doit continuer à vouloir que nous positionnons notre pays, nos familles, à des endroits où on n'est pas présent. On doit continuer à investir dans nos enfants.
Monsieur.
On doit investir dans nos enfants. Le Congo est un pays très jeune. L'âge moyen, il est là. À peine, je sais pas moi,
17-18
ans. 100 millions aujourd'hui, un peu plus de 100 millions. Et ça va être un des pays les plus peuplés d'ici 40 ans. On a des ressources. On a des gens. Et l'objectif pour nous ici, c'est d'investir dans les Congolais parce qu'au-delà de tout ce qu'on a comme ressources minières, climatiques, etc., on a des ressources humaines. Et si on arrive à allier toutes les ressources que l'on a avec l'humain congolais au centre, je crois qu'on peut vraiment rêver d'impacter significativement le monde. Je crois que le Congo peut impacter le monde, quoi. Et donc, on doit vraiment travailler à ça. Ce que vous faites a beaucoup de sens. Ce que nous faisons et ce que d'autres font, ça a beaucoup de sens. On ne doit pas se décourager. On doit continuer. Et là, on est positionné à avoir cet impact et créer les conditions pour que le Congo, les Congolais et plus tard les autres aussi en bénéficient. Donc, on rêve toujours grand pour le Congo.
C'est fantastique. En tout cas, c'est un mot de la fin parfait. Et donc, je vous remercie, monsieur Latta, de m'avoir accueilli ici. À la prochaine.
Merci, monsieur Catalan. À la prochaine.